Salut Sacha, au menu ce 30 avril, le baril de Brent qui s'envole à cause d'Hormuz, le bilan glaçant des 2 mois de guerre en Iran, l'audition tendue de Pete Hegseth devant le Congrès, la doctrine israélienne de la périphérie revisitée par le monde diplomatique, et puis on partira un peu du Moyen-Orient pour parler du Mali, où l'Africa Corps russe vient de prendre une claque, et de la frontière afghano-pakistanaise qui s'embrase. Programme chargé.
Très chargé, oui. Et tout est connecté, on le verra. Commençons par le sujet le plus brûlant, au sens propre, le pétrole. Selon RFI, le Brent a bondi de 5% ce jeudi à son plus haut depuis 4 ans, parce que Washington évoque désormais un blocus prolongé des ports iraniens. On est sorti du scénario frappe ponctuelle pour entrer dans une logique d'étranglement économique durable.
Et pendant ce temps, Pete Hegseth a chiffré la guerre à 25 milliards de dollars devant le Congrès, en lâchant cette phrase un peu vertigineuse. Quel est le prix à payer pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on pose la question comme si elle était rhétorique. 25 milliards, 1400 morts iraniens et un baril qui flambe, ça commence à faire un prix très concret.
La phrase de Hegseth est typique d'une rhétorique de guerre préventive qu'on connaît bien depuis l'Irak en 2003. On déplace la discussion sur un absolu moral, empêcher la bombe pour éviter le bilan comptable et humain. Mais selon RFI, l'audition a été houleuse justement parce que les démocrates ont essayé de ramener le débat aux faits. Quels sont les résultats concrets? Le programme nucléaire iranien est-il réellement détruit ou simplement retardé? Hegseth, dit RFI, n'a fait aucune concession.
Et c'est là qu'interviennent les chiffres du grand continent, qui sont assez sidérants. En 60 jours, 3070 frappes israélo-américaines sur l'Iran, 1434 morts et plus de 2800 bâtiments touchés rien qu'à Téhéran selon des images satellites de l'Université d'État de l'Oregon. La moitié des frappes concentrées sur Téhéran, Ispahan, où se trouve le centre nucléaire, et Hormozgan, juste à côté du détroit d'Hormuz. Le ciblage est limpide.
Limpide et révélateur. Frapper Hormozgan, c'est préparer le terrain à ce qu'on voit aujourd'hui, la pression sur le détroit. L'Iran a riposté avec 1600 drones et missiles, touchant non seulement Israël et les pays du Golfe, mais aussi l'Azerbaïdjan, Chypre et tentant la Turquie. Cela signifie qu'on a affaire à un conflit régionalisé qui déborde déjà largement le cadre bilatéral.
Ce que je trouve intéressant, c'est que le cessez-le-feu annoncé par Trump le 8 avril tient sur l'Iran depuis le 10. Donc militairement, ça s'est calmé, mais économiquement, Washington serre la vis. C'est une guerre qui change de forme plutôt qu'une guerre qui finit.
Et il faut le dire clairement, un blocus prolongé, c'est une arme contre la population civile. On l'a vu en Irak dans les années 90, avec un coût humain considérable. Trump présente le cessez-le-feu comme un succès diplomatique, mais il maintient une stratégie d'asphyxie. C'est une guerre par d'autres moyens.
Et pendant ce temps, le Liban encaisse. C'est presque le grand oublié du récit dominant, alors que selon le grand continent, Tsahal a frappé davantage le territoire libanais que l'iranien. 2300 frappes contre 1900 et au moins 1600 morts. Le cessez-le-feu du 16 avril, prolongé le 23, est largement théorique puisque le Sud subit des bombardements quotidiens.
Et c'est là que l'article de Mohamed Bitar dans Le Monde diplomatique prend tout son sens. Il rouvre une archive saisissante, un texte de Gilles Deleuze publié dans Le Monde en avril 1968, qui dénonçait déjà l'opération Litanie au Sud-Liban. Deleuze écrivait qu'Israël palestinise le Sud-Liban et qu'un mort arabe n'a ni la même mesure ni le même poids qu'un mort israélien. 48 ans plus tard, Bitar fait le constat que les mêmes mots pourraient décrire le mercredi noir du 8 avril dernier, où l'aviation israélienne a tué plus de 350 civils libanais en quelques minutes.
Ce parallèle historique est glaçant. Et Bitar mobilise aussi cette phrase de Kissinger : Israël n'a pas de politique étrangère, seulement une politique intérieure. Avec la montée des courants messianiques qui rêvent du grand Israël, englobant le Sud-Liban, on voit comment la politique intérieure israélienne reconfigure toute la région.
La doctrine de la périphérie, c'est l'idée ancienne, théorisée par Ben Gurion, de s'allier avec les non-arabes du pourtour, l'Iran du Shah, la Turquie, l'Éthiopie, pour contourner les voisins arabes. Bitar suggère qu'elle revient au goût du jour, mais sous une forme militarisée et offensive, plus défensive. Et le paradoxe qu'il pointe très bien, c'est qu'Israël démontre encore une fois son incapacité à convertir ses succès militaires en règlements politiques. Gaza, le Liban, à chaque fois, la victoire tactique nourrit l'instabilité stratégique.
Et ça nourrit aussi la résistance. Le Hezbollah, rappelons-le, est né de l'invasion de 1982. Donc on peut s'attendre à ce que les bombardements actuels génèrent leur propre génération d'opposants armés.
C'est la dynamique tragique de ces guerres. Passons au Sahel, parce que c'est un autre théâtre où une grande puissance vient de prendre un coup.
Le Mali, oui. Selon le Guardian et l'analyse de Fatou Elisba pour l'IRIS, le week-end dernier a été un séisme. Une alliance inédite entre le JNIM, djihadiste affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad, indépendantiste Touareg, a lancé des attaques coordonnées. Ils ont pris Kidal, attaqué près de Bamako, et tué le ministre de la Défense Sadio Camara dans un attentat suicide. Camara, c'était l'homme de Moscou à Bamako.
Et la version russe est embarrassée. Le ministère de la Défense russe affirme que l'Afrika Korps, l'héritier de Wagner, a empêché un coup d'État et combattu encerclé pendant 24 heures. Mais selon RFI, cité par le Guardian, un responsable malien anonyme dit que les Russes ont en réalité négocié leur sortie via une médiation algérienne. Citation : Les Russes nous ont trahis à Kidal.
Le récit héroïque russe se fissure. Et politiquement, c'est énorme. Kidal, c'était la ville symbole, reprise en 2023 grâce à Wagner. La perdre, c'est démontrer les limites de l'influence militaire russe en Afrique de l'Ouest. Et au passage, Moscou accuse, sans preuve, des instructeurs européens, dont des Ukrainiens, d'avoir formé les rebelles. Ça nous ramène directement au conflit ukrainien.
Ce qui boucle bien avec l'autre article du Grand Continent que je voulais évoquer, l'empire zombie de Vladimir Poutine, de Sergei Radchenko. Il revient sur la stratégie énergétique de Poutine, utiliser le pétrole et le gaz comme armes de coercition. En 2022, la Russie a engrangé 383 milliards de dollars d'exportation d'hydrocarbures, 43% de plus qu'en 2021. Mais depuis, on est alpha salad at this divisive gas is European, leur Carthaginian.
Et c'est là qu'il y a un lien fascinant avec notre premier sujet. Si le Brent flambe à cause d'Hormuz, qui en profite? La Russie, en partie. Une guerre Iran-USA qui fait monter les cours, ça refinance indirectement la machine de guerre russe.
C'est une ironie cruelle de la géopolitique énergétique. Washington frappe Téhéran pour, entre autres, contrôler les flux d'hydrocarbures et au passage renfloue Moscou. Radchenko parle d'empire zombie, justement parce que la Russie n'a plus les moyens de ses ambitions, mais continue d'avancer par inertie violente. Le revers du Mali en est une autre illustration.
Dernier sujet, plus rapide, la frontière afghano-pakistanaise. Selon le monde diplomatique, on est passé d'affrontements sporadiques à une confrontation militaire ouverte. Bombardement pakistanais en profondeur sur Kaboul, Kandahar, l'ancienne base de Bagram en février, et le 16 mars, une frappe pakistanaise sur un centre de désintoxication à Kaboul a fait au moins 143 morts.
Le Pakistan, état nucléaire avec l'une des plus grandes armées du monde, cherche à frapper les bases arrières du TTP, les talibans pakistanais réfugiés côté afghan. Mais cela révèle aussi sa vulnérabilité. Une économie au bord du gouffre, une instabilité politique chronique. L'article parle d'une position paradoxale de force et de vulnérabilité, et c'est exactement ça. Le risque, c'est l'erreur de calcul, l'engrenage non voulu entre deux États dotés.
Ce qu'on retient donc aujourd'hui, une guerre Iran-USA qui mute en blocus économique avec un coût humain et énergétique mondial, un Liban toujours martyrisé dans le silence relatif, un revers russe majeur au Mali qui pourrait redessiner l'influence de Moscou en Afrique et une poudrière afghano-pakistanaise qu'on regarde trop peu.
Et un fil rouge. Les grandes puissances, USA, Russie, Israël, Pakistan, démontrent toute leur capacité à détruire mais leur incapacité à construire un ordre stable. C'est ça, la séquence historique dans laquelle nous sommes. À demain, Alex.
À demain, Sacha.